La Veine Armand, une histoire de famille, une histoire de territoire. Épisode 3, la création de la société à Veine Armand. Au début du XXe siècle, le Causse-Méjean, comme les gorges du Tarn, sont fréquentés par la haute bourgeoisie parisienne et les notables régionaux. La variété des paysages étonne et émerveille qui y passe ou y séjourne. Les gens du pays, fiers et amoureux de leur territoire, prennent alors conscience que le développement du tourisme peut améliorer leurs conditions de vie plutôt difficiles. C'est dans ce contexte que Louis Armand, serrurier lausérien, accompagné d'Édouard Alfred Martel, géographe parisien, ont découvert un nouveau site souterrain remarquable, la Veine Armand. Une cavité naturelle exceptionnelle, grande comme la cathédrale Notre-Dame de Paris, contenant une forêt de stalagmites, un trésor de la terre et du temps. Cette découverte tant attendue, il souhaite la rendre accessible au plus grand nombre, en organisant son accès et son exploitation touristique. Réjeanne et Dominique, actuellement salariés de la société à Veine Armand, nous racontent comment cela a été possible.
Édouard Alfred Martel, c'était son vœu le plus cher, voulait que Louis Armand soit propriétaire de la grotte. Donc, peu de temps après sa découverte, il se renseigne à qui appartient le terrain autour de la Veine. En l'occurrence, c'était Monsieur Bertrand, et qui habitait donc proche de la Veine. Édouard Alfred Martel informe son ami de toujours, donc Monsieur Fabier, notaire à Peyrelos, de la situation, et il signe un accord qui stipule que Louis Armand devient propriétaire des terrains autour de la Veine.
Adrien Fabier, c'était plus qu'un notaire, c'était aussi un ami de Martel et de Louis Armand. Il faisait la spéléologie aussi, donc il a partagé pas mal d'expéditions spéléologiques avec Louis Armand et Martel.
Le 18 octobre 1897 s'officialise donc l'achat du terrain, 50 mètres autour de l'orifice de la grotte, par Louis Armand à Auguste Bertrand. Un consortium est établi dans la foulée par maître Adrien Fabier, le 5 novembre, stipulant que si la Veine devenait rentable, les dividendes seraient partagés pour 20% à Auguste Bertrand, 25% pour Louis Armand, 35% à Édouard Alfred Martel, 15% pour Adrien Fabier et 5% pour Hippolyte Causse. Armand Viré intégrera le consortium, achetant les droits d'Auguste Bertrand 2 ans plus tard. Reste qu'il faut trouver des investisseurs pour développer ce projet et aménager le site.
Dès 1900, on parle d'une visite de la Veine Armand, mais une visite qui était quand même assez aventureuse. Donc il y avait un départ de Mereuys en voiture, 2h30 pour aller au grand croisement des 4 routes sur le Causse-Méjean. Et ensuite se faisait un parcours à pied de ce carrefour à la Veine Armand, une demi-heure encore de balade. Ensuite, visite de la grotte en échelle de corde, donc c'était assez périlleux. Les gens remontaient en rappel et rentraient sur Mereuys, donc c'était une visite assez longue. Ouais. Pour organiser ces descentes en échelle de corde dans la Veine Armand, on a besoin de personnel pour assurer la sécurité, et on a besoin d'un guide, en l'occurrence Louis Armand, pour explorer la grotte. Les autochtones participaient à ces premières visites. Notamment, on sait que Irma, la femme de Louis Armand, participait à l'organisation des descentes en rappel dans la cavité. On sait qu'aussi, il y a des gens de la parade qui participaient à ces descentes.
Par exemple, Marie-Constance Gall, dite Louise, habitante des Errants, grand-mère de Réjeanne, fut embauchée par les créateurs de la société de la Veine Armand.
Elle était chargée de faire descendre par le treuil les personnes et souvent les futurs investisseurs de la société, qui venaient visiter la Veine Armand. Du coup, il y avait un treuil qui avait été installé à l'orifice de la Veine Armand avec une nacelle. Et du coup, les investisseurs rentraient dans cette nacelle et ils étaient descendus dans la grotte pour la visiter.
Louis Armand meurt en 1921 sans profiter pleinement de sa découverte. Et l'idée de l'exploitation touristique de la grotte tombe un peu dans l'oubli.
Et il faut attendre 1925 pour qu'il y ait des amis de Louis Armand qui reprennent le projet, notamment le notaire de Peyrelos, Adrien Fabier, qui est un ami de Martel et d'Armand, qui s'associe avec des membres du syndicat d'initiative de MIO. Donc il y avait en particulier le docteur Frédéric Bonpère, Henri Aldebert qui était avoué et Antonin Bénézèche qui était pharmacien à MIO. Donc tous trois, ils avaient une vision du développement touristique dans la région.
Ces gens-là vont parler de cette future exploitation de la Veine Armand à une entreprise qui faisait des travaux d'adduction d'eau à Millau.
Et le conseil municipal engage des entrepreneurs toulousains pour donc régler ce problème. Et donc ces entrepreneurs toulousains, ce sont deux frères, Isidore et Paul Pain. Ils sont d'origine lozérienne, du nord Lozère. Ils se sont installés à Toulouse et du coup les frères Repin vont visiter la Veine Armand en avril 1926 et en ressortant immédiatement ils sont séduits par le projet et décident de s'investir dedans.
Je suis Frédéric Pain, donc je suis une descendante des premiers fous qui ont décidé en fait d'ouvrir la grotte à l'exploitation. Donc je suis une arrière petite fille d'Isidore et Paul Pain. Voilà, donc mon arrière-grand-père et arrière-arrière-arrière-grand-père étaient dans le secteur en fait pour refaire les routes des gorges du Tarn. Et ils connaissaient donc pas mal de gens du coin et c'était copains aussi donc avec les curveliers, avec tous les gens du coin, du Rosier et voilà. Et bien ils ont eu l'idée complètement folle d'ouvrir la grotte au public. Hein. Et pour ça, avec toute une bande de copains qui sont aujourd'hui les descendants donc, des actionnaires de la Veine Armand, ils ont décidé de creuser un tunnel pour ouvrir l'accès aux visiteurs hein, et faire en sorte que la Veine Armand soit visitable par tout le monde et non pas sur une corde ou une nacelle comme ça se faisait à l'époque. Et voilà, c'est comme ça qu'est créée la société de la Veine Armand. Et aujourd'hui, c'est mon frère qui est justement administrateur. Parce que c'est un esprit de famille, la Veine Armand, avant tout.
L'opiniâtreté d'Édouard Alfred Martel, aidé par le fidèle et tenace maître Fabier et le docteur Bonpère, finit par payer. Les frères Pain et Tondu signent le 21 mai 1926 l'accord de l'exploitation de la grotte. Dès lors, presque miraculeusement, tout changea et les circonstances favorables s'accumulèrent et s'enchaînèrent.
Suite à la sortie du livre d'Édouard Alfred Martel, Millau, capitale d'Écosse, le Touring Club de France, qui était une association très importante à l'époque, hein, composée de notables nationaux, pour dire le président d'honneur de cette association était Vincent Doumergue, le président de la République de l'époque. Dans ce club fermé, on retrouve les directeurs des compagnies de chemin de fer privées de l'époque. Ces gens-là organisent un périple sur le territoire des Gorges du Tarn. Ils se retrouvent à Millau pour un banquet.
Martel est assis à côté de Jean-Raoul Paul, qui était le président des chemins de fer du Midi. Et au cours du repas, en fait, il lui parle de la Veine Armand. Et Jean-Raoul Paul lui dit « Mais si c'est vraiment une merveille, pourquoi elle n'est pas au programme? Pourquoi on ne va pas visiter la Veine Armand ?» Donc Martel lui dit « Mais qu'à cela ne tienne, je vais organiser une visite. » Il organise une visite et le 27 mai 1926, ils partent visiter la Veine Armand, donc avec les trois grands directeurs des chemins de fer privés. Ils visitent la Veine Armand et Jean-Raoul Paul en sort vraiment émerveillé et repart pleinement satisfait de sa visite.
Les trois directeurs des compagnies de chemin de fer privées, qui étaient des rivaux hein, dans la vie de tous les jours, vont décider de s'unir pour tout faire en sorte que cet endroit soit découvert par le plus grand nombre. Et en fait, c'est le premier accord connu de ces personnes qui donnera par la suite la création de la SNCF.
Grégory Pain, je suis administrateur, l'un des quatre administrateurs actuels de la société. Mon père a été directeur général pendant plus de 20 ans, il était président pendant 10 ans avant ça. Avant ça, c'était mon grand-père qui était président, qui était donc lui-même petit-fils de l'un des premiers exploitants de la grotte. Et il y a eu cette opportunité parce qu'ils étaient... dans les transports ferroviaires et les seuls qui avaient à l'époque la technologie, je parle de l'époque, c'était il y a 100 ans du coup, hein, qui avaient la technologie pour creuser des tunnels comme ça dans la roche, c'était les gens des transports ferroviaires, les grandes compagnies avant la création même de la SNCF. Donc d'ailleurs, il y a une légende qui dirait que la SNCF s'est créée dans la veine. C'est une légende, ça reste une légende, mais on aime bien qu'on colporte ce genre de légende.
Et quelques temps plus tard, on a une lettre de Martel à Jules Artière, à Millau, donc qui était imprimeur à Millau et ami de Martel, où Martel dit qu'il a revu donc Monsieur Paul et que Monsieur Paul est toujours autant enthousiasmé par sa visite de la Vénarmand et qu'il a trouvé un gros investisseur potentiel pour la future société en la personne de Monsieur Édouard Eiffel. Édouard Eiffel, le fils de Gustave Eiffel, a décidé d'investir dans le projet de la société, prend des actions de la Vénarmand et fait partie des gros porteurs d'actions de la Vénarmand à la création.
Édouard Eiffel, donc fils de Gustave Eiffel, le célèbre ingénieur. Édouard Eiffel avait un frère qui s'appelait Albert. Albert va dessiner la première affiche de la Vénarmand. Cette affiche, on la retrouvera dans toutes les gares de France. C'est une très jolie affiche du style des années 30. Donc, Édouard Eiffel était ingénieur comme son père. Il était peintre et il était ami de Picasso. Édouard Eiffel va s'assurer d'employer les meilleures personnes du moment pour ce projet touristique de grande envergure. En l'occurrence, l'ouverture au public de la Vénarmand.
Avant d'envisager cette ouverture, des aménagements sont nécessaires. Messieurs Pain et Tondu, prévoyants, ont acquis les terrains et droits complémentaires indispensables. Le 1er juin 1926, ils démarrent les premiers travaux. Le 25 août, la Société anonyme de la Vénarmand est constituée et son conseil d'administration se réunit pour la première fois. Une première souscription est lancée pour rassembler des fonds.
Premier appel à souscription en 1926, les gros porteurs, donc, ils ont acheté 100 actions de la société. Donc il y a la famille Eiffel, donc Édouard Eiffel qui en a acheté 100. Il y a Charles Guibert de Millau, qui est un industriel gantier et dont actuellement la descendance fait encore partie des actionnaires de la société. Et pareil, lui, il a été au conseil d'administration pendant très longtemps de la création de la société dans les années 70. Après, donc, il y avait les frères Pink, leur associé toulousain, Tondu. Après, il y a deux autres Toulousains, Ernest Besson, qui était le grand-oncle du président actuel de la société, Vincent Besson. Gaston Barbier, dont pareil, les descendants font encore partie du conseil d'administration. Après, il y a des très petits actionnaires. Il y a des gens qui ont acheté une action. Et après, il y a aussi des personnes connues, donc Martel, Armand Viré. Donc l'épouse de Louis Armand et sa fille, en fait, leurs droits sur les terrains de la Vénarmand ont été remplacés par des actions. Donc ils ont eu des actions aussi à la création de la société. Après, il y a des noms un peu plus connus de Millau qui ont aussi été actionnaires dès l'origine. Donc il y a Jules Artière, qui était un personnage important sur Millau à l'époque, Louis Balsan. Voilà, il y a plein de personnes de Millau qui ont acheté des actions, mais pas que. Il y a aussi des Toulousains, des Montpelliérains, des Parisiens, des Bordelais. Donc il y avait des gens un peu de toute la France qui se sont investis dans la société de la Vénarmand. Au tout début, il y avait à peu près 120 actionnaires dans la première souscription. Les personnages locaux, on va dire, font partie des petits porteurs qui avaient une dizaine d'actions chacun. On avait aussi des familles d'hôteliers, des gens qui connaissaient notamment Martel, puisque Martel, quand il venait faire ses expéditions dans la région, logeait dans des hôtels. Et du coup, quand il y a eu l'appel à souscription, et ces personnes ont décidé d'investir dans le projet. Donc on a les hôteliers du Rosier, de la Malène, de Millau, de Merveis. Il y a même l'aubergiste de La Parade qui a eu quelques actions, mais ça c'est plus un paiement de la société de la Vénarmand vis-à-vis de cette personne, parce que du coup pendant les travaux d'aménagement, elle fournissait les repas aux ouvriers, etc. Donc pour la remercier, ils leur ont donné deux actions de la société de la Vénarmand. Donc même l'aubergiste du coin avait deux actions de la Vénarmand à l'origine.
En remerciement à la famille Curvelier qui a participé à l'exploration de la Vénarmand, lors de l'ouverture au public du site, on confie la gestion du bar à cette famille. Et on leur confie une action.
Voilà, depuis la création de la société, nous sommes actionnaires de l'entreprise. Alors, quels avaient été les arrangements ou les ententes avec eux à l'époque? Moi, je n'en sais rien. Beaucoup se faisaient verbalement aussi. Et on faisait des patchs, comme on disait en patois. Donc, quelle avait été la patch? Moi, je n'en sais rien. Mais enfin, on peut dire que nous sommes présents, nous, sur le site, en tout cas, depuis... La famille est présente sur le site depuis la découverte, ou en tout cas depuis 1898. Dès le départ, mon arrière-grand-père, Louis Curvelier, avait été nommé à l'époque guide-chef. Voilà, c'était le premier guide, finalement, de la Vénarmand et responsable du site. Et nous sommes là-haut depuis le départ. Les familles qui ont investi à l'époque étaient ou des entrepreneurs ou des gens un petit peu connus, reconnus dans leur milieu. Là où il faut quand même leur être reconnaissant, c'est d'avoir osé poser autant d'argent ou d'investir autant dans un endroit où il n'y avait ni eau, ni électricité, ni même chemin, aucun accès. Et puis, bon, ces gens qui venaient, moi j'en ai quelques souvenirs de voir arriver certains actionnaires, certains administrateurs en voiture avec chauffeur. Moi qui étais gosse, j'en garde encore quelques souvenirs émus de cette période-là. Voilà.
En 1926, toutes les planètes sont bien alignées pour une création facile de la société de la Vénarmand, en fait. Hein, donc on a cette effervescence de notables mi-avois, du Touring Club de France. Vraiment, la Vénarmand est un peu le centre du monde à cette époque. Hein, on voit qu'il y a un potentiel touristique de cette curiosité, parce qu'à l'époque, on parlait de curiosité. Le tourisme souterrain n'était pas encore bien implanté en France. Et puis, curiosité des gorges du Tarn, on découvre les gorges du Tarn, de la Jonte. Donc, je pense que les planètes étaient bien alignées à cette époque et ça a favorisé la création de la société.
En cette année 2026, la société Avesnes-Armand célèbre son centenaire. C'est l'occasion de revenir sur son histoire, ses origines et ses valeurs, avec son président actuel Vincent Besson, mais aussi avec les actionnaires qui chaque année se retrouvent à la Vénarmand, sur le Cosméjean, en famille et entre amis.
Je suis arrivé dans cette société par des liens familiaux, car le frère de mon grand-père, Ernest Besson, était dans le premier tour de table à l'origine de la société. Et lui-même a été président pendant une vingtaine d'années. Mais dans le premier tour de table, on trouve la famille Eiffel, très investi dans le club alpin français, très investi dans le développement touristique. On trouve Jean-Raoul Paul, président de la Compagnie des chemins de fer du Midi. Et ça a été quelqu'un de déterminant dans le développement industriel, économique et touristique de tout le sud et le sud-ouest de la France par le développement des chemins de fer qu'il a réalisé. On trouve le Touring Club de France. On trouve des familles de notables de Millau, des Gantier, la famille Guibert. C'est important de comprendre que ces gens-là avaient le recul et la compréhension des affaires pour apporter la compétence pour créer une société. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait des locaux, beaucoup de locaux. On retrouve dans la création de la société ce mélange extraordinaire qu'on avait déjà avec les équipes de Martel, de gens d'origine, de conditions, de formation, de vie totalement différentes, mais qui se rassemblent autour d'un projet commun, faire vivre cette merveille souterraine qu'est la Vénarmand et partager cette passion commune. Ces gens-là, ils n'avaient pas besoin de créer la société de la Vénarmand pour vivre ou pour gagner de l'argent. Ce qu'ils cherchaient, c'est à s'investir dans quelque chose qui avait du sens au niveau local, au niveau du développement. Ça a été ça, la création de la société. Et ce qu'il y a de merveilleux aujourd'hui, c'est que 100 ans après, cet esprit perdure.
En fait, on est tous là encore aujourd'hui à vouloir faire connaître ce lieu incroyable et on est tous là mobilisés pour que 100 ans après, ce soit toujours un émerveillement. Ça montre juste la solidité et la force de cette société.
Mon grand-père, Charles Guibert, qui était un entrepreneur dans Gantrier, était toujours très intéressé par le développement du tourisme et a fait partie des premiers actionnaires et créateurs de la société de la Vénarmand et après avec Montpellier-le-Vieux. J'en suis son petit-fils, nous sommes 4 petits-enfants de ce Charles Guibert et je représente notre indivision au sein de l'Assemblée Générale. Lui, en tant que gantier, tanneur, mégissier, il avait couru la campagne pour rechercher des peaux. et faire coudre des gants par des femmes en général chez elles. Tout ça faisait qu'il aimait beaucoup ce coin-là et il était très ouvert au tourisme.
Je suis Philippe Gess. Mon arrière-grand-père, Isidore Pain, faisait partie des fondateurs de la société Avesnes-Armand. Et donc, ensuite, mon grand-père a été administrateur, mon père, et aujourd'hui, voilà, la quatrième génération administrateur de l'Avesnes-Armand. Après, à l'origine, ce sont des amis qui se sont associés pour monter l'entreprise, hein, quasiment tous. L'entreprise, c'est parce qu'elle est basée sur ce joyau qu'aujourd'hui, on continue à se voir et qu'on a envie de, voilà, au-delà de l'amitié, effectivement, de continuer, oui, tout à fait. Avant d'être une histoire de conseil d'administration, c'est une histoire de famille, parce qu'on se connaît, nos parents, nos grands-parents se connaissaient, donc il y a une famille actionnaire, pas que ce soit mes cousins, que ce soit la famille David, la famille Curvelier, c'est des gens que je connais depuis tout petit, et en même temps que je viens ici. On ne vient pas simplement s'occuper d'une entreprise, on vient également se retrouver entre amis ou entre familles. Et puis on connaît très bien les locaux, les habitants de Mérubeil, ses hôteliers, les restaurateurs. Donc quand on vient ici, c'est avant tout un plaisir. Voilà.
Pierre Louiraud, je suis actionnaire de la Avesnes-Armand, du fait que mon grand-père est descendu dans la Avesnes-Armand, dans les 100 premiers. Et donc il a participé dès le début à la création de la société. Et a eu des actions, et donc du fait de son décès, du décès de mon père, ses actions ont échu à ses petits-enfants, dont je fais partie. Le docteur Louiraud.
De Millau. C'était quelqu'un du directoire, d'autant qu'il a été président du syndicat d'initiative de Millau.
L'essentiel de sa famille était Mérouès. À cette époque-là, un médecin généraliste comme lui faisait également des accouchements dans les fermes, etc. Donc il bougeait beaucoup. Et donc forcément, il a été attiré par tous les sites touristiques.
Nous sommes les descendants de la famille Bénézich. Bon, donc c'était d'abord notre grand-père, Antonin, qui était à l'origine de l'exploitation de la Avesnes-Armand. Il a fait partie du premier conseil d'administration en 1927.
Ma grand-mère était comptable, elle tenait la comptabilité de la Avesnes-Armand. C'est à ce moment-là qu'ils ont acquéri les actions.
Donc, mais nous, on avait quand même des actions de nos parents, que ce soit de mon père ou de ma mère plutôt et de ma tante. Et c'est mon frère et moi qui avons hérité de toutes ces actions. On les a rachetées.
On a 32 actions chacun. Ça fait partie du patrimoine tout ça. Et ben oui, c'est un souvenir parce que, vous le voyez, c'est une société familiale. Hein. Ça, y a pas, c'est pas coté en bourse, donc c'est pas pour ça. Mais c'est vraiment familial, donc c'est un souvenir. On aimerait bien que nos enfants continuent à avoir toutes ces actions, voilà.
Bien sûr, il a fallu mettre quelques fonds, c'est normal. Beaucoup de gens de Millau, M. Henri Auziège, industriel à Millau à l'époque, et il participe. Les gens qui pouvaient, ils ont participé pour démarrer la chose. Et à l'époque, il avait donné cette somme. Pour se lancer là-dedans, quand même, il a dû dire qu'il faut faire un effort. Et donc, c'est parti comme ça, chacun a donné un petit quelque chose et l'affaire a démarré très bien. Parce qu'ils ont connu ceux qui sont descendus la première fois dans la grotte. C'est fabuleux. Et voilà, et après, petit à petit, l'affaire a pris son élan et tout le monde est très fidèle. C'est ça qui est formidable.
Ils ne veulent pas céder leur action. Parce que c'est un petit bout de leur cœur, cette action. C'est un petit bout de leur histoire familiale. C'est un petit bout de l'histoire du territoire. C'est un petit bout de leur fierté que eux-mêmes ou leur famille ont contribué à la création, au développement, au maintien de quelque chose de merveilleux. Tous les actionnaires sont majoritairement pour qu'on réinvestisse tout dans la société. Pour terminer, le centenaire de notre société, Avesnes-Armand, Montpellier-le-Vieux, notre slogan, c'est 100 ans d'aventure touristique. On peut le regarder de deux façons. On peut le regarder avec le passé. Nous existons depuis 100 ans. Nous avons eu 100 ans d'aventures touristiques merveilleuses. Mais pour moi, ma compréhension, ce sont les 100 ans à venir. Ce sont les 100 ans d'aventures touristiques merveilleuses que nous avons à construire.
C'était l'Avesnes-Armand, une histoire de famille, une histoire de territoire, épisode 3. La création de la société Avesnes-Armand. Un documentaire réalisé par Alex Kerel de Radio Larzac. Prochain épisode, l'ouverture au public de la Veine Armand. Cette série de podcasts s'inscrit dans le cadre du programme HITS, Heritage Innovation Territory Tourism Sustainable, cofinancé par l'Europe au titre du FEDER dans le cadre de l'Interreg Sud-OE.